Shalom, aujourd'hui nous allons parler du monde à venir, ou ce qu'on appelle en français le paradis, ou en hébreu le Olam Haba. Ce sujet qui est tellement central dans beaucoup de religions, qui est la vie après la mort, l'immortalité de l'âme, certains parlent même de l'enfer. Qu'est-ce que la tradition juive a ajouté à tous ces enseignements? Eh bien, il est très surprenant de voir que dans la tradition d'Israël, en tout cas à l'époque biblique pour le moins, eh bien, l'idée du Olam Haba, du paradis, de la vie après la mort, était quasiment évacuée de la conscience des Hébreux. Non pas que on ne savait pas qu'il y a une vie après la mort, non pas que on n'était pas au courant de l'existence du jardin d'Éden dont la Torah fait expressément mention au début de la Genèse, dans Béréchit, mais il est évident que à l'époque où Dieu se manifestait sur terre, où sa parole était entendue par les prophètes, ce qui remplissait la vie des gens, ce qui faisait l'espoir du bonheur, c'était la vie d'ici-bas. On peut dire que ce qui était véritablement important était ce qui se passe sur cette terre. Ce n'est que beaucoup plus tard, à l'époque du deuxième temple, à partir du moment où la vie terrestre a commencé à devenir insupportable, en tout cas du point de vue d'Israël, étant donné que le royaume de Juda et le royaume d'Israël avaient disparu de la carte du monde, et que tout Hébreu maintenant vivait sa vie de façon quasiment individuelle. C'est alors qu'est né ce qu'on appelle le judaïsme en tant que religion des individus. À partir de ce moment-là, la vie terrestre a été moins importante, et c'est là que l'idée du monde à venir a commencé à prendre une place centrale dans la conscience hébraïque. Eh bien, de quoi s'agit-il précisément? Alors évidemment, on peut dire qu'il s'agit simplement de l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire que la vie ne cesse pas avec notre monde, la vie continue après cette vie-là, et on peut dire qu'effectivement, il y a ici une vision optimiste. Seulement, il y a ici quand même un élément, pessimiste, qui est que ça voudrait dire que la vie du corps, elle, a cessé d'avoir un sens, puisque nous disparaissons dans la tombe. Et traditionnellement, le judaïsme parle plutôt du Olam Haba en tant que résurrection des morts. Alors, de quelle manière la résurrection des morts se réalise-t-elle? Comment est-ce que cela est vécu, une vie sans mort? On n'en sait rien. On n'a jamais vécu une chose pareille. Mais ce que l'on peut savoir, en tout cas, c'est qu'il y a dans le projet d'Israël une participation pleine et entière de la vie corporelle à la vie de l'âme. En fait, l'homme constitue en une seule unité, un être intégral, qui a l'espoir de la réussite de son existence pour l'éternité. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que nous ne connaissons pas tous les détails, tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe dans le ciel. Alors, mais on peut quand même parler, par exemple, de la tradition kabbalistique de la métempsychose, ce qu'on appelle le Gilgoul. C'est-à-dire que on a des chances de recommencer sa vie si on l'a ratée, si on peut dire. Et donc, on peut dire que aucun espoir n'est véritablement perdu. En fin de compte, on arrive là où il faut arriver. À ce propos, il y a chez certains de nos maîtres une distinction très intéressante qui est faite entre la trajectoire de l'âme d'un fils d'Israël et l'âme d'un fils des nations. Du point de vue de l'âme d'Israël, alors on peut dire que nous avons une assurance. Nous sommes assurés de participer au monde à venir. C'est ce qu'on dit, Kol Israël Yeshlem Chelek L'Olam Haba, tout Israël à part au monde à venir. Et ça veut dire que c'est très exigeant, parce que si je suis obligé d'accéder au monde à venir, je serai obligé de le mériter. Donc ça implique également une quantité assez importante de souffrance, de transformation, de laminage, pour que je mérite ce qui m'a été promis. Par contre, chez les nations, on peut dire que c'est plus facile. Si l'on désire la vie du monde à venir, ce qu'on appelle la béatitude, elle est accordée, cette béatitude, à tout homme droit et fidèle parmi les nations. Tous ceux qui accomplissent les exigences de la morale, les sept commandements des lois Noachides, une fidélité à l'amour de Dieu, eh bien, tout ceci, on part au monde à venir. Mais personne n'est obligé. C'est-à-dire, si l'on veut sortir de la trajectoire, eh bien, cela est possible. On peut dire d'une certaine manière qu'il est plus rentable, si l'on veut, d'appartenir à la trajectoire des nations, parce qu'elle est plus facile à accomplir. On peut d'une part accéder pleinement et totalement à l'adhésion à l'infini, dans le voisinage de Dieu, mais on peut très bien également décider de s'en écarter. Par contre, pour Israël, il y a une accumulation de souffrances qui fait que l'on est obligé, finalement, en fin de compte, à travers de nombreuses péripéties, d'accéder finalement à cette béatitude. En tout cas, même si cet enseignement ne sort que d'une certaine école de la pensée d'Israël, elle est intéressante parce qu'elle voudrait donc dire que l'accès à la béatitude est universel et qu'il est plus, disons, évident et plus facile pour les membres des nations. L'exigence est moins grande. D'un autre côté, elle respecte entièrement la pleine stature de l'homme, lui permet finalement d'accéder en pleine sérénité, en pleine tranquillité, dans la connaissance du Créateur qui est celle du monde à venir, si seulement on accepte de se conformer au minimum des lois de la moralité. Shalom.